Oui, donc je vais présenter un certain nombre de solutions qui ont été proposées donc dans le cadre des résultats du projet Ishakai. En fait, il y a une centaine de solutions qui ont été proposées, qui sont réparties autour de quatre thématiques. Donc, comment faire pour réduire les émissions de contaminants par les différents matériaux et produits utilisés et limiter également leurs impacts. Comment prévenir les risques liés à l'humidité et éviter le risque de développement fongique. Garantir donc un renouvellement de l'air de bonne qualité donc grâce à une mise en œuvre des équipements adéquats. Et enfin, mettre en place une organisation de chantier adaptée, puisque comme on l'a dit, cela se prépare dès la phase conception. Donc, je vais aborder les différentes thématiques. Alors oui, vous avez dans le petit livret qui vous a été remis, deux des livrables du projet Ishakai, donc une plaquette de sensibilisation qui vient réaborder donc tous les enjeux sur la qualité de l'air intérieur et donc les différentes thématiques que j'ai citées précédemment, et également un guide méthodologique qui vient justement cibler un peu le rôle de chaque acteur et qui répond au questionnement qui est responsable de quoi, qu'est-ce qu'il faut faire à chacune des phases. Et enfin, un outil d'aide à la sélection de ces 100 solutions. 100 solutions, ça fait un peu beaucoup hein, quand on débarque sur le listing. Donc en fait, ce travail de listing de solutions, on l'a valorisé via la création d'un outil en ligne, donc sur le site de l'agence Qualité Construction, donc qui doit être mis en ligne, je pense, sous peu.
Le ouais. Site, il est en refonte, donc d'ici la troisième semaine du mois d'octobre, il sera en ligne.
Voilà, donc très rapidement, il sera accessible. Il permet de sélectionner les solutions selon le type de projet de construction. Est-ce qu'on est sur un projet en neuf, en réhabilitation, en construction bois, en construction béton, quel type de système de ventilation, etc. Donc l'idée, c'est que le maître d'œuvre ou le promoteur, selon le type de projet, aille chercher les solutions ciblées pour son projet. Donc, je vais aborder la question des émissions de contaminants. En fait, le projet Ishakai a permis de faire des mesures de qualité de l'air intérieur en cours de chantier, donc sur deux chantiers de construction neuve, ce qui a été très rarement réalisé. Et au cours de ces mesures, on a utilisé des capteurs donc, qui permettent de voir l'évolution en dynamique des émissions de composés organiques volatiles. Donc le graphique que je vous présente là, il montre l'évolution de ces concentrations, donc à partir de la phase hors d'eau, hors d'air, à partir du moment où on a une boîte fermée, entre guillemets, jusqu'à la livraison du bâtiment. Et ce graphique, pour moi, est intéressant parce qu'il a révélé que les tâches les plus émissives ne sont pas forcément celles auxquelles on s'attend, c'est-à-dire, par exemple, la mise en œuvre des peintures d'impression et de finition. En fait, on a l'utilisation de produits parfois sur des surfaces toutes petites, comme par exemple les peintures sur les huisseries bois ou des produits de jointement pour par exemple les escaliers métalliques ou encore les produits de nettoyage utilisés en fin de chantier. Donc en fait, ce sont des produits de pose ou des produits qu'on considère comme annexes, qu'on ne va pas forcément suivre tout au long du chantier. Parfois, ils ne sont pas prescrits au cahier des charges. Et souvent, ils relèvent d'habitudes de travail. Donc là, on touche à un point qui, pour moi, est clé, c'est qu'on a un fort besoin de sensibilisation et d'information des entreprises, puisque ces produits qui sont très émissifs, alors on revient aussi au pistolet à joint, hein, ils vont toucher la santé des compagnons qui interviennent sur le chantier. Ils peuvent aussi éventuellement avoir un impact sur la santé des futurs occupants, en raison des phénomènes d'absorption et de désorption des coves qu'on peut avoir. Donc l'idée, ça va être de jouer sur vraiment les produits qu'on prescrit au cahier des charges, donc ça se joue en conception, mais il y a aussi un fort besoin de sensibilisation et de suivi en phase chantier. Donc c'est la première piste qu'on a donnée dans les solutions du projet Ishakai. Ce qu'on peut faire aussi éventuellement, c'est de recourir à des solutions alternatives. Si je donne juste un exemple, au lieu d'utiliser une colle pour poser un revêtement de sol, donc qui occasionne des émissions par la colle en elle-même, aussi éventuellement des questions d'interaction avec le revêtement en lui-même, on peut très bien mettre en place un revêtement de sol sans colle, il y a des produits qui existent, ou avoir recours à des produits qui sont finis en usine et qui évitent justement l'utilisation de petits produits ultérieurement en phase chantier. Alors oui, un point important aussi moi que j'ai noté sur de nombreux projets, c'est la nécessité de réaliser un diagnostic des supports quand on est sur des projets en réhabilitation. Parce que j'ai eu des cas où en fait ce diagnostic n'avait pas forcément été réalisé par l'architecte. On se retrouve en phase chantier avec le peintre qui doit intervenir sur un support qui n'est pas propre. Et le peintre, lui, n'a pas au cahier des charges de reprise des supports de prévu avec un enduit de lissage. Donc dans ces cas-là, ce qui arrive très souvent, c'est qu'il va utiliser une peinture qui est très fortement émissive parce qu'elle doit forcément pouvoir accrocher au support. Donc ce travail-là, pour moi, doit être fait en amont, en phase conception. Bon, et une autre solution, évidemment, ça va être d'aérer ou d'utiliser une ventilation provisoire en phase chantier pour renouveler l'air et éviter l'impact des émissions de contaminants. Voilà, je vais laisser la parole à Marie-Angèle.
Qui va parler de l'ennemi numéro un, qui est l'humidité.
Oui, tout à fait. Je vais traiter comment prévenir les risques liés à l'humidité. Donc tout d'abord, et ça a déjà été dit par Lionel, ça va être de fixer des délais d'exécution réalistes et compatibles d'une part avec la filière qui a été choisie, qu'elle soit sèche ou humide, et de bien inscrire aussi dans le planning les différentes modalités de réception des supports. Il faut bien que ce soit réalisé pour éviter des problèmes postérieurs. Il va falloir aussi maîtriser les apports d'eau et d'humidité. J'ai les exposés tout à l'heure. Ça va être les stockages pendant la phase chantier. Ça va être l'apport d'eau dans des filières humides, tout simplement. Et ça va être aussi les infiltrations qui se font sur les chantiers par défaut de vigilance. Il va falloir soigner la conception et la mise en œuvre des parois en termes d'étanchéité à l'air et de migration des vapeurs d'eau. Et finalement, et encore une solution qui rejoint la problématique de pollution, ça va être d'évacuer l'humidité, soit par aération, soit par un système spécifique à la phase chantier. Après, l'autre point essentiel, on en a discuté aujourd'hui à plusieurs reprises, ça va être de garantir un bon renouvellement de l'air. Et pour ça, encore une fois, respecter la réglementation et les règles de l'art. Et pour ça, on va surveiller plus particulièrement l'accessibilité de tous les composants du système, qu'il s'agisse de l'extracteur, des trappes, des entrées d'air ou des bouches d'extraction. On va regarder et on va veiller aussi à ce qui est les transferts d'air et les détalonnages des portes. On va veiller à ce que les réseaux aéroliques soient bien étanches et ils soient intraitenables. Et pour finir, on va bien mettre en place les éléments nécessaires pour respecter les débits réglementaires. En deuxième point, on va protéger, on l'a déjà aussi évoqué, les différents composants du système de ventilation pour qu'ils ne soient pas pollués quand on va mettre en service le système de ventilation. Donc les protéger des différents polluants, fibres et particules. Et on va préparer aussi la réception de l'installation des ventilations par des mesures fonctionnelles, des contrôles aussi visuels et dans la mesure du possible, réaliser des tests d'étanchéité des réseaux.
Oui, donc je vais finir avec le dernier axe de solution qui porte sur la mise en place d'une organisation de chantier adaptée. Pardon. Donc l'idée, c'est de préparer cette organisation dès la fin de conception, donc déjà en intégrant des exigences propres aux questions de qualité de l'air, donc au dossier de consultation des entreprises dans les cahiers des charges, mais également dans le planning et le plan d'installation de chantier. Je vais revenir sur ces deux points-là. Et également prévoir des réunions d'information et de sensibilisation. Donc sur le planning de chantier, on l'a évoqué déjà plusieurs fois, mais il va s'agir en fait de respecter les règles de l'art, donc dans l'enchaînement des tâches, mais aussi bien intégrer les temps de séchage. Donc l'idée, c'est de ne pas partir sur un planning qui soit trop serré, même très en amont hein, d'un projet. Parfois, on voit des projets où dès la phase APS, on est sur un planning de chantier qui est déjà restreint. Moi, je pense qu'il faut éviter à tout prix ce genre de choses, parce que généralement, quand ça arrive, ce sont les temps de séchage des supports qui se retrouvent restreints. Ou alors, ce qui peut arriver aussi, c'est qu'on a le plaquiste qui intervient un petit peu tôt, parfois avant le hors d'eau, hors d'air, hein, je l'ai déjà vu sur des chantiers. Donc ça signifie que les plaques de plâtre vont forcément être exposées à un moment ou à un autre à des taux d'humidité qui peuvent être élevés, voire même aux intempéries directement, d'où un risque de moisissure là, qui peut être élevé. Ce qui peut éventuellement être intéressant de faire aussi, c'est de retarder la mise en œuvre alors des matériaux qui sont en capacité d'absorber les composés organiques volatiles. Je pense par exemple aux isolants acoustiques, faux plafonds acoustiques ou matériaux acoustiques qu'on peut avoir de façon spécifique dans certains types de salles. Ces matériaux sont très absorbants et donc ils peuvent être intéressants de les mettre en place vraiment en toute fin de chantier, une fois que toutes les finitions ont été réalisées. Et enfin, alors, il est aussi très intéressant de prévoir un petit peu de temps en fin de chantier pour différentes raisons. Là, l'idée, ça va être de prévoir une période d'évacuation des composés organiques volatiles, donc ce qu'on appelle une surventilation, voire même un flush-out, selon le terme anglo-saxon. Donc l'idée, c'est de pousser au maximum nos centrales de traitement d'air quand on en a et d'évacuer les composés qui ont pu s'accumuler pendant le chantier, ou même d'accélérer en fait les composés organiques volatiles émis par les produits de construction. Alors comment intervenir sur le plan d'installation de chantier? Là aussi on est sur des choses qui ne sont pas forcément évidentes à mettre en place, mais c'est des questions de bon sens, mais si on peut réussir à faire un minimum, c'est déjà intéressant. On a évoqué la question du stockage des gaines de ventilation, et de façon générale, de tous les composants du système de ventilation, il faut être très prudent, donc essayer d'éviter leur exposition aux intempéries, à l'empoussièrement. Donc c'est également le cas de tous les produits isolants acoustiques, plaques de plâtre, donc essayer d'éviter leur exposition aux intempéries, mais aussi aux produits émissifs. Donc l'idéal, ce serait de stocker de manière séparée hein, les produits émissifs et les produits absorbants, et avoir des zones spécifiques où on fait les mélanges de peinture notamment. Et enfin, les zones de découpe qui peuvent produire un fort empoussièrement. Essayez là aussi d'avoir des zones où on va venir faire ces découpes et essayer d'éviter, par exemple, d'avoir un empoussièrement de nos gaines de ventilation.